L'abbé Pierre, il est mort. Eh ben oui, bon, ben d'accord. On le porte au nu, peut-être. Mais en définitif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son boulot de curé. Point à la ligne.
Je ne suis pas souvent d'accord avec vous quand j'écoute vos émissions, mais pour une fois, j'ai apprécié votre émission. Étant de droite, mais ayant déjà compris la tactique de Sarkozy et la façon dont vos invités ont décrypté le phénomène, a confirmé mon choix de ne pas voter pour lui. Allez, au revoir.
Bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs de là-bas si j'y suis. Je me permets de vous appeler, je viens d'écouter l'émission sur Nicolas Sarkozy. De temps en temps je laisse des messages, je suis policier garde la paix précisément, donc 1500 grades. Je voulais réagir simplement, j'avais prévu de vous appeler la semaine dernière par rapport à l'article du canard enchaîné, par rapport aux chiffres, où simplement il suffit de ne pas compter en fait certaines plaintes et de plutôt... donc ces plaintes en faire des mains courantes, donc ce qui fait que le délit n'est pas pris en compte. Alors moi je travaille dans un service où effectivement je suis amené à prendre des plaintes, et effectivement nous avons cette fameuse note de service dont parle le canard enchaîné de la semaine dernière, où on nous demande effectivement pour les plaintes de vol de portable de les classer au maximum enfin en mains courantes et non pas en dépôt de plainte. Donc moi ça fait des années que je connais ce petit jeu, hein, qui est pas nouveau, hein, qui se faisait déjà à l'époque de Vaillant, dans mes précédents services, notamment dans mes services où il y avait eu une époque, une explosion de vols de portables et qui était classé en vol violence. Donc cette augmentation, assez importante. Gêné un peu ma hiérarchie. Donc on avait décidé de classer ces vols portables, non pas en vol violence, mais en vol simple. Donc il était évident que forcément les vols simples allaient augmenter, les vols violence allaient diminuer. Voilà, c'est une petite précision pour vous dire que de toute façon, je pense comme la majorité des gens ne sont pas dupes. Dans la police, on n'est absolument pas dupes. Il y a une résistance, je dirais, de pas mal de fonctionnaires quand même, ce genre d'utilisation de la police à des fins électorales et des fins personnelles. Je rappellerai que ma première mission je ne suis pas au service d'un État et d'un seul homme, d'une institution, mais j'essaie d'être au service des gens, et malheureusement, notre mission première de service public est détournée donc à des fins personnelles, et c'est absolument dommage. Moi, je sais que je ne resterai pas dans la police, c'est évident. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Moi, je suis très attaché à une police de proximité qui n'a, à mon avis, jamais existé, même sous la gauche, hein, même sous Chevènement. Donc voilà, c'était pour vous apporter ces petites précisions sur les chiffres et sur la vie personnelle d'un fonctionnaire de police qui ne changera absolument rien. De toute façon, c'est pas le but du jeu. Voilà, merci pour vos émissions et on se sent moins seul. Et puis voilà, à bientôt.
Salut Daniel, bravo pour ton émission sur le décryptage de Sarkozy. Si tu le permets, je vais compléter l'explication concernant la méthode de Sarkozy pour donner l'illusion d'une baisse de la délinquance. En juin 2002, Sarkozy a convoqué les 100 directeurs de la police nationale, c'est-à-dire les 100 directeurs de la sécurité publique, qui constatent 95% de la délinquance en zone urbaine. Il leur a indiqué que désormais, chaque mois, il convoquerait les 5 directeurs dont les chiffres auraient connu la plus forte baisse afin de les féliciter, et les 5 directeurs qui auront connu la plus forte hausse afin de leur demander des explications, précisant qu'ils sauraient en tirer toutes les conséquences. Sachant que la police ne peut pas à elle seule faire diminuer la délinquance, les plus honnêtes et peut-être les moins courageux ont progressivement quitté le navire, d'autres ont résisté, résistent encore, et puis surtout les tricheurs sont restés. Et les meilleurs d'entre eux sont récompensés chaque année par une prime de mérite. Cependant, malheur à celui qui se fait prendre, car là il sera sanctionné. C'était le cas d'ailleurs en 2005 à Bordeaux. Voilà une méthode infaillible, importée de New York, confère Guignani, fondée sur le chantage et la tricherie. Mais ça marche.
Merci, merci amis policiers de nous apporter ces précisions. On aimerait une précision supplémentaire, c'est vos coordonnées, qu'évidemment on ne transmettra pas à l'antenne, mais ça nous serait bien utile pour vous rencontrer et que vous nous en disiez encore plus sur ces méthodes. On sait bien qu'elles existent, enfin certains savent bien qu'elles existent, mais ce serait bien d'avoir des précisions, tant c'est vrai que c'est ces chiffres sont, c'est vrai que ces chiffres sont faux et qu'il n'y a rien de plus manipulable et de plus manipulé, surtout en ces saisons. Aujourd'hui, on va s'interroger sur un mot qui était une expression qui était très belle, très dans le vent, comme on disait à l'époque, like a Rolling Stone. C'était formidable d'abord d'arriver à parler anglais aussi bien que je le fais toujours aujourd'hui. Être comme une pierre qui roule, c'est formidable, non ? Ça voulait dire que, voilà, on n'avait plus d'attache, on était des nomades, des vagabonds célestes. Et puis, aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, c'est devenu la précarité. Oui, l'intérim. Vous vous souvenez de la pub pour Manpower, par exemple ? On en parlait tout à l'heure avec l'équipe dans le bureau. Vous vous souvenez, c'était beau, c'était formidable. On allait travailler de temps en temps, tous ensemble, chacun à sa place, etc. Comment en est-on passé de cette idée nomade, de mouvement, sans racines, dans le vent, etc., jusqu'à cette angoisse numéro un, des Français, et pas seulement des Français, face à la précarité. C'est la question qu'on s'est posée et auquel on va essayer d'apporter aujourd'hui des éléments de réponse jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut à tous, c'est Fabio, Fabdou du Vaucluse. Juste pour vous dire qu'après l'abbé Pierre, le même jour, il y a eu un SDF qui est mort écrasé par une benne à ordures à Valence. Et là, j'apprends, il est 18h20, on vient de me passer un coup de téléphone. Ce soir, dans les rues d'Avignon, enfin hier soir, il est mort de froid, sans domicile fixe. Et pourtant, on a planté des tentes depuis le 31 décembre, sur la place de l'horloge. Et voilà. Donc, c'est encore peut-être difficile à accepter, surtout qu'on aura alerté tout le monde et que voilà, l'hécatombe continue. Voilà, pendant les soldes, l'hécatombe continue. Salut à tous, ciao.
Bonjour, c'est Marie-Laure, une petite commerçante d'Ille-et-Vilaine. Voilà, j'ai écouté ce matin les infos de 9h et on nous a expliqué concrètement comment les centrales d'achat plumaient les consommateurs. À savoir combien margeaient les grands groupes, exemple, un t-shirt acheté 10 euros par le client qui provenait de Chine, enfin pas le client, hein, le t-shirt, hein, était acheté donc à 1,50€. Et si ce même t-shirt venait d'une entreprise française, il coûterait à la centrale d'achat 4 à 5 euros maximum. Pas mal du tout comme marge quand même. Mais moi j'ai cependant une bonne nouvelle pour dire que toutes ces arnaques, toutes ces délocalisations vont bientôt se terminer avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas, notre Superman à tous, puisque tout le monde devrait le savoir. Le président de l'Union des industries textiles, le président du comité de liaison des industries de main-d'œuvre, n'est autre que Guillaume Sarkozy. Donc merci à eux deux par avance et bravo à France Inter pour toute cette transparence.
Bonjour, à propos de l'abbé Pierre, j'ai, comme l'auditeur d'hier, quelque chose qui m'est resté en travers la gorge à propos du soutien à Gaudi. Mais je dois dire que selon les émissions tronquées, pas complètes, j'ai quand même compris et vu à la télé l'abbé Pierre dire qu'il n'avait pas lu le bouquin, qu'il soutenait Gaudi par amitié, confiance. Et je l'ai vu dire qu'il s'était trompé, je l'ai vu demander pardon, donc il reste de lui ce qu'il a été dans son combat contre ceux qui ont faim, qui ont froid, qui n'ont pas de logement. Alors, je propose que l'on réfléchisse à la façon de continuer le combat, par exemple, à la Gandhi. Les manifestations, les bonnes paroles ne suffisant pas, il faut préparer disons une levée générale, peut-être après des élections, de toute façon il faut bien préparer la chose, et au-delà des manifs, donc il faut agir. Les paroles ne suffisent pas, il faut des actes, nous pouvons gagner. C'était Jean de Grenoble, au revoir.
Bonjour, je vous téléphone de Belgique, de la ville de Gand. Je voudrais faire quelques réflexions au sujet de l'abbé Pierre. Xavier Pierre est un monsieur que j'ai, pour lequel j'ai eu le plus grand respect pendant de très longues années. Mais un beau jour, il a eu la très mauvaise idée de soutenir des idées négationnistes de son ami, Roger Garaudy. De ce jour-là, l'abbé Pierre a sérieusement dégringolé dans mon estime. Je l'ai entendu personnellement à la radio faire un parallèle entre la Shoah et la destruction de la ville de Jéricho par Josué. J'ai trouvé ça parfaitement scandaleux. Et ce n'est pas les bonnes actions dont on peut le créditer qui peuvent excuser une pareille attitude. Je voudrais qu'on en parle un peu plus. On n'a pas toujours besoin de souligner tout ce qui est positif et tout ce qui est le côté négatif peut être souligné aussi. Voilà.
C'est en fermant les volets du bureau de la maison, là, chez mes parents, que j'ai compris quelque chose. Je me suis aperçu que, donc il est 6h15 par là, le voisin, la maison de derrière, dont la face donne justement sur le dos de la nôtre, n'avait pas encore fermé ses volets. Et je l'ai aperçu, assis dans sa cuisine, en train de regarder la télé. Et je me suis dit, eh bien, la voilà, la petite vie bien réglée. Le matin, je le vois qui passe avec son chien, un petit chien qui était en laisse. Il va chercher son pain, le journal. Il rentre, il s'occupe, il mange. Ils doivent manger à 13h, à 19h33, 20h. Le soir, il y a les jeux télévisés. Et puis, il a beaucoup moins de soucis que moi. Il n'essaie pas de changer le monde. Il doit payer ses impôts à l'heure. Il doit remplir tous les formulaires que l'État lui envoie. Et puis voilà, une petite vie bien réglée. Pas besoin de changer le monde. Pas débordé par des projets démesurés. Non, une petite vie tranquille. Et là, on a le temps de faire des choses quand on n'a pas grand-chose à faire. Alors, me suis-je dit, me serais-je trompé? La crise de conscience. Au fond, nous devrions tous pas aspirer à une petite vie tranquille. Pendant que les grands de ce monde se bataillent pour avoir le pouvoir, nous, on est exploités, bêtes, mais tranquilles. Une petite vie bien tranquille.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassy J'y suis, avec François Ruffin. La précarité a une histoire.
Flight number 2, arriving from...
Ne travaillez jamais, ne travaillez jamais. C'était le slogan, le mot d'ordre ou le mot de désordre des situationnistes des années 60. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Vous vous souvenez? La joyeuse chanson du joyeux Henri Salvador. Et vous vous souvenez du droit à la paresse, de l'an 01, de Temrock. Et de tous ces rêveries qui nous semblaient un jour ouvrir des horizons où le travail serait un choix. On choisirait de travailler ou de ne rien faire. Tel était notre horizon, notre utopie et quelque chose de possible. On découvrirait un jour le temps du non-travail, un continent, celui du non-travail. Aujourd'hui, à part un Pierre Carle qui nous promet pour bientôt un film sur Volem, rien foutre, Al Pais, mais qui risque de choquer beaucoup et qui n'aura... Faudra voir les rapports qu'il a réussi à établir avec ces temps anciens que j'évoque. À part ça, le travail, eh bien, c'est la première préoccupation en ces temps électoraux de notre société. Plus exactement, l'emploi, plus exactement le rôle qu'on tient, plus exactement la fragilité, la précarité. Or, j'évoquais tout à l'heure l'intérim, le début de l'intérim, mais ces odes quotidiennes et permanente à l'intérim qu'étaient ces publicités, celles de Manpower. Comment en est-on passé de ces perspectives d'un jour travailler moins, voire pas du tout, à aujourd'hui où c'est l'angoisse qui est au cœur de la société, c'est le moyen du contrôle social. Comment ça s'est opéré? On connaît la réponse généralement, c'est la crise. Il y a eu à un moment, on ne sait plus très bien quand d'ailleurs aujourd'hui, une crise qui continuerait, le mot est un peu dépassé maintenant, mais enfin il y a eu ça, comme il y a eu des tsunamis, comme il y a eu des moments, des glissements de l'histoire, des grandes fractures qui se produisent bien contre notre gré. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Quelle a été la volonté des hommes? Quelle a été la part de l'idéologie? Quelle a été la part des hasards? Quelle a été la part des idées? Et quelle a été la part de l'histoire? C'est important, évidemment, si on veut faire face à ces phénomènes et aux souffrances nombreuses qu'on constate et qui s'affirment et qui s'expriment de plus en plus à travers et ben voilà, la précarité aujourd'hui jusqu'au souci que nous avons pour les SDF, etc. Alors comment ça s'est produit ? On va aujourd'hui, avec François Ruffin, essayer d'expliquer comment ça s'est passé. Quelle est l'histoire de cette précarité avec des personnes qui savent bien, par leur rôle, par leur boulot, comment ça s'est passé de l'intérieur. Je vais parler d'inspecteurs du travail. Et oui, ce sont des gens qui connaissent bien ces histoires-là, à une époque, à un moment où ils sont largement marginalisés, pour ne pas dire dénigrés. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, la précarité a une histoire.
Les idées saines, qu'est-ce que c'est?
Les Français sont paresseux.
Car ils ne savent pas qu'à force de ne pas travailler, ils ne travailleront plus du tout.
Il va être possible de travailler plus pour gagner plus.
Les Français sont paresseux.
Pour en finir avec une spécificité française, le déficit de travail.
35 heures.
Et nous, comme des imbéciles, on dit, il y en a qui ne savent pas travailler. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça la vérité.
Les Français sont paresseux.
Rendre au travail sa place dans notre société.
Il ne faut pas travailler, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut partir en vacances.
Les Français sont paresseux.
Julie, ça fait 3 ans. 3 ans que Julie pour rien. Toi, ça fait 2 ans que tu fous rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne fout rien. On fait de rien.
On savait pas que le travail, c'était dur à trouver.
Moi, je comprends pas. Franchement, non. Vous êtes déjà pas capable de vous lever le matin pour aller chercher?
Bah, toi, pareil, c'est quand on peut aller
quand même. Bah, si, c'est quand on cherche, on trouve.
Ça veut dire surtout que quelque chose ne tourne pas rond dans le travail aujourd'hui en France.
Les Français sont paresseux.
Bonjour, paresse.
Rien à craindre, qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps.
Les RTT qui ont créé de mauvaises habitudes.
Pour pas travailler, pour pas travailler.
35 heures.
Mais de là à dire que ce qui est bien, c'est attendre son chèque à la fin du mois sans en ficher une rage.
35 heures.
Mais vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail.
Il faut gagner plus et travailler.
Se défoncer pour une grande entreprise, c'est trop con. Tu es sûr de te faire avoir.
Bon, on va tous au chômage, c'est tout.
Il faut travailler plus, on travaille plus assez en France.
Les Français sont paresseux.
Pas un jour sans de nouveaux propos provocateurs de la part du MEDEF exigeant toujours plus de flexibilité, toujours plus de précarité comme seul remède contre le chômage. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est 1973. Qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Tout ça, évidemment, sans doute, n'est pas arrivé du jour au lendemain. Alors, on a demandé à deux inspecteurs du travail qui ont préféré rester dans l'anonymat. On va donner simplement leur prénom. L'un s'appelle Yves et l'autre Gilbert, de retracer l'histoire de cette précarité.
Alors, je voudrais qu'on monte aux années 70. C'est le moment où, finalement, le code du travail est le plus solide.
Bon, déjà, le droit du travail est le résultat des luttes sociales. On prend un exemple en matière d'accident de travail, la loi de 76 sur la prévention, la grande loi hygiène sécurité, a été adoptée après qu'un juge Charette, ait mis en prison un patron suite à un accident mortel. En 73, c'est la loi sur le licenciement, c'est-à-dire que depuis la loi de 73, on n'a pas le droit de licencier quelqu'un sans cause réelle et sérieuse. Le CNE comme le CPE, on revient à la situation antérieure à 73.
Donc c'est en 73 qu'il y a une obligation de motiver un licenciement.
Oui, c'est la loi de 73. En 75, il y a la loi sur l'autorisation administrative de licenciement qui a été supprimée en 86.
Donc on voit ces trois dates, 73, 75, 76, ces trois lois qui viennent donner davantage de droits aux salariés et davantage d'obligations à l'employeur. Quelle est la dynamique qui est en cours là, à ce moment-là, durant les années 70?
La dynamique, elle est, en gros, c'est le droit du travail 36, grande grève générale, les conventions collectives, les délégués du personnel, à la libération, les comités d'entreprise, une avancée sociale importante. Et après, 68, avec la reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise et du délégué syndical.
C'est-à-dire que le droit du travail évolue en fonction des luttes sociales. Donc il y a trois grands moments dans les luttes sociales. Il y a 36, donc là, à ce moment-là, il y a une première série de mesures qui est prise. Il y a 45, avec le Conseil national de la résistance, une seconde série de mesures qui est prise. Et troisième poussée sociale, c'est 68, où là, dans l'après-68, donc qui dure grosso modo jusqu'en 75, là...
Jusqu'au choc pétrolier, les politiques d'austérité et l'arrivée de ce qu'on appelle la flexibilité.
Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
En 1967 et en 44 secondes que vous venez d'entendre, Georges Pompidou lance le début de la révolution conservatrice néolibérale. Désormais, la précarité, désormais, la concurrence finie, ces Français paresseux et assistés, il va falloir se bouger, il va falloir bouger à défaut d'être archaïque, pas moderne, etc. La chanson commence là, c'est la... Sans doute, la première note de la chanson. On va voir avec, à travers d'autres archives, comment cette déréglementation, cette précarisation a évolué, s'est installée peu à peu dans le travail, dans les mœurs, dans la politique et dans les consciences. On est avec nos deux inspecteurs du travail, Yves et Gilbert.
Là, on a décrit une série d'avancées, en tout cas dans le droit, dans le code du travail. Mais en même temps, durant ces années 70, il y a une montée du chômage. Et en même temps, il y a un second mouvement qui va dans le sens de l'installation, malgré tout, d'une certaine flexibilité.
Tout à fait. À partir de 74, avec Barre, on commence à attaquer effectivement, au nom encore une fois de l'insertion dans l'entreprise et dans l'emploi, on va créer des statuts complètement dérogatoires, la création de ce qu'on a appelé les stages pratiques en entreprise, ensuite les SIVP, et tout ça en plus, sur financement public. Ça, c'est ce qu'il faut dire aussi. Non seulement les salariés sont plus dans une situation normale et habituelle, légitime d'un CDI, mais en plus, les employeurs, sous différentes formes, ça a pris différentes formes, des primes, des exonérations de charges, le fait qu'on pouvait payer en dessous du SMIC, etc. Et tout ça a cru et embelli.
Et l'intérim, par exemple.
Alors justement, l'intérim,
ça commence quand, l'intérim?
L'intérim, ça commence dès les années 60, notamment, par exemple, dans des branches entières comme l'automobile ou le bâtiment, l'être public, où se développe la sous-traitance. Et donc, jusqu'en 72, normalement, l'intérim est illégal. À l'époque, le ministère a un discours un peu hypocrite, c'est de dire c'est illégal, mais en fait, dans la réalité, on le laisse se développer. L'intérim, qui est une création nord-américaine, le numéro un de l'époque de l'intérim, c'est Manpower, qui, dans les années 60, a introduit en Europe, et notamment en France, le concept d'intérim, qui, jusqu'à la loi de 72, qui lui donne un statut légal, est parfaitement illégal.
Mais alors, vous étiez inspecteur du travail à ce moment-là?
Moi, j'étais inspecteur du travail en 73, mais j'étais dans les services avant 60, 1972. Donc,
mais alors, comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui est illégal et, parce que Manpower, il devait avoir des agences où on voyait marqué Manpower.
Tout à fait.
Quelque chose qui est illégal et qu'on laisse s'installer, qui s'installe en place publique. Bon,
alors, si vous voulez, il y avait deux éléments. D'abord, c'était, ça n'avait pas l'importance que ça a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 700 000 équivalents temps plein intérimaires qui travaillent chaque mois. Donc, ça veut dire beaucoup plus de monde, puisque les missions, la durée moyenne d'une mission, c'est de 15 jours. À l'époque, ça n'avait pas l'importance numérique que ça avait. Et à l'époque, sur le marché du travail, les gens avaient encore le choix entre l'intérim et une insertion normale sous CDI. Ce qui a été dramatique, c'est que c'est devenu une forme qui s'est développée quantitativement et surtout qui aujourd'hui est un intérim massivement subi.
72, sa première grande date de la précarité finalement.
On donne un caractère légal à l'intérim qui normalement était illégal.
Pourquoi on le légalise en ce moment-là, l'intérim ?
Parce qu'on a dû considérer à l'époque que, un, ça n'allait pas devenir le phénomène de masse que c'était, et puis, deux, il y a eu un choc politique. Là aussi, de se dire, bah, donnons un caractère légal à quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, ou qu'on ne veut pas empêcher.
Et du côté de l'inspection du travail, comment réagissaient les agents à cette première installation d'une précarité ?
La réaction, ça a été de dire, bon, puisqu'il y a eu un choix politique de légaliser cet intérim, contrôlons le mieux. On a eu cette illusion-là qu'en contrôlant l'activité notamment du travail temporaire et des utilisateurs, on arriverait à endiguer et à moraliser le système. La suite nous a donné tort.
Les entreprises de travail temporaire ont pris une importance grandissante depuis 20 ans, date de leur apparition aux États-Unis, et depuis une quinzaine d'années, date de leur apparition en Europe. Actuellement, 100 000 travailleurs sont touchés en France par le travail temporaire. C'est en valeur absolue un chiffre important, mais nous pensons que le travail temporaire ne doit conserver qu'un caractère marginal et ne pas influer lourdement sur le marché de l'emploi.
Oui, mais est-ce que vous ne rencontrez pas, par exemple, des spécialistes du travail temporaire, des gens qui ne veulent faire que ça ?
Il arrive que nous ayons des spécialistes du travail temporaire de deux catégories. Des travailleurs que nous appelons les hommes de chantier et qui se déplaçaient d'entreprise en entreprise et qui chez nous trouvent une certaine régulation de leurs emplois, et les femmes qui, pour des raisons familiales, ne veulent travailler que 3 ou 4 mois par an. Mais on peut dire qu'en général, le travailleur temporaire est un travailleur classique qui vient d'un emploi permanent, qui cherche chez nous un dépannage momentané, qui retourne en emploi permanent dans un délai bref.
Un dépannage momentané, c'était en 1969, ce document de l'ORTF, l'Office Radio de Télévision Française, et c'était au journal télévisé, et le journaliste Bernard Pradino interroge un responsable du travail temporaire qui en limite le caractère. Il y a 100 000 travailleurs précaires à l'époque, mais des travailleurs qui sont touchés par la précarité. On sait très bien en 69 qu'il s'agit d'une forme dégradée de travail, et on essaiera, on se promet d'en limiter les effets et la dimension dans le monde du travail. 33 ans après, écoutez ce document.
Adecco, numéro 1 du travail temporaire.
Vous êtes intérimaire ? Vous êtes
intérimaire, oui. Intérimaire.
Vous aussi ?
Oui.
Là, c'est un groupe d'intérimaires, en fait.
Là, oui.
Vous êtes intérimaire aussi ?
Intérimaire aussi, oui.
Vous êtes de Montbéliard ?
Non, Besançon.
Besançon ?
Ouais,
vous êtes de Besançon. Loin, alors ?
Ouais, de loin.
Et vous habitez à Besançon ?
Non, on habite là, on prend le car à la navette qui nous ramène ici.
Et c'est quelle maison d'intérim vous travaillez ?
Intérim 25.
C'est intérim 25 aussi ?
Non, à l'école, automobile.
Sur Montpellier.
Oui.
Et vous avez choisi de venir à l'usine ou...
Comment ?
T'échanges deux mots avec ton collègue, on te dit tu parles trop. T'as besoin d'aller chercher de la marchandise ailleurs dans l'usine parce que t'en as besoin pour ta machine, pourquoi tu te balades ? Donc c'est devenu, faut pas parler, faut pas que le boss il te croise en train d'aller chercher quelque chose au fond de l'usine. Syndicat, faut surtout pas en parler, faut pas se plaindre, faut dire t'es content, t'es d'accord. Je me souviens même d'un ouvrier qui m'a dit récemment, ne les contrarie pas trop. Parce que quand il nous avait montré un peu l'usine, ce qu'il fallait faire pour que ce soit nickel, que ce soit bien, bien propre, j'avais posé la question, mais c'était ironique, hein, c'était pour rire, on est augmenté combien ? Il y a même un employé qui est là-bas depuis 9 ans, s'est retourné, m'a dit ne les contrarie pas trop, tais-toi. Ne les contrarie pas trop, tais-toi.
Adecco, numéro 1 du travail temporaire.
jetable, devenir un jetable, c'est l'angoisse, c'est la revendication, ce que dénoncent aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers de jeunes lycéens et étudiants. Mais dans ce document, on le voit, récent, de 2002, la précarité, l'emploi jetable, et c'est installé dans le monde du travail, dans le monde ouvrier, dans le monde salarié. Entre les deux, un autre document qui date de 1980, c'était sur TF1, avant que TF1 ne soit privatisé, au journal télévisé, on s'interrogeait longuement avec des reportages pointus sur le travail temporaire, et c'était pour le dénoncer.
Si le travail temporaire répond à une certaine nécessité économique, trop souvent les travailleurs intérimaires sont les victimes d'abus et de procédés que désapprouvent les vrais professionnels. Nicole, agent technico-commercial dans une agence d'intérim, explique quelques-unes de ses pratiques.
Qui sont les gens qui viennent dans votre agence ?
Pour la plupart, des manœuvres en jardinage. Hein. Il arrive quelquefois qu'il y ait un petit peu de personnel qualifié, mais enfin, c'est pas très courant dans cette agence-là. L'agence dépêche un directeur commercial qui va recruter dans des centres d'hébergement, hein, où il propose du travail. Les gens sont quand même tenus de venir.
Ils sont pratiquement obligés d'aller travailler.
Pratiquement.
Si ils refusent de venir travailler, leur centre d'hébergement
ne les reprend plus. Hein. Alors ces gens viennent donc à 6h15. Peut-être y aura-t-il un emploi. Peut-être pas, parce qu'il y a souvent un très grand nombre de gens pour le petit peu d'emplois proposés, mais il faut quand même pas que l'agence manque de main-d'œuvre. Hein. Donc il vaut mieux dire oui, venez demain matin, pas de problème, à 6h15 à l'agence, et ils sont là.
Donc c'est les premiers qui sont là qui sont pris.
Pas forcément, ça se fait aussi, il y a une histoire quand même de racisme, de couleur, des gens qui parlent pas français, d'autres qui sont bien de chez nous, de bons gaulois, enfin bon, tout ça c'est quand même des critères de sélection. Hein. Mm-hmm. Alors ces gens-là sont donc envoyés sur les lieux de travail en estafette le premier jour. Hein, de manière à ce qu'ils ne se perdent pas dans la nature. Ensuite, ils iront de leurs propres moyens. Hein. Quand la personne vient à 6h15 à l'agence le matin pour ne commencer son emploi qu'à 8h ou qu'elle revienne le soir, vous avez environ 12 à 13 heures d'heures effectives, mais 8 heures de rémunérées. Il n'y a jamais de mission à durée déterminée, donc ils ne savent pas la veille où ils iront le lendemain, enfin pas toujours.
Ah oui, ils ne savent pas combien de temps va durer la mission.
Non plus, jamais.
Mais en principe, ils devraient le savoir.
Non. Enfin, ils devraient le savoir, oui, mais ça ne se fait pas. Et puis, pour une cause que la personne ne sait jamais d'ailleurs pratiquement, on lui dit, oui, mission terminée, il y a une petite croix dans le petit papier.
Et pourquoi font-ils ça? Pour allécher, pour décider les gens à venir travailler?
Bien sûr, parce que si vous dites à un intérimaire qu'il a un travail pour la journée ou pour deux jours, à 12,50 de l'heure, je ne pense pas qu'il sera tellement intéressé.
La loi qui régit aujourd'hui le travail temporaire est nettement insuffisante et une nouvelle réglementation est à l'étude. Elle devrait assurer une meilleure protection à ce million de salariés qui, chaque année, passent par les agences de travail temporaire.
Faut cumuler, c'est ça, tu sais qu'il faut cumuler.
Précarité a une histoire, longue, longue histoire de la précarité, comment la précarité s'est installée peu à peu dans notre société, dans notre culture, dans nos esprits. Parce que ça, les dates des acquis, on les connaît, 36, 45, 68, mais les dates des régressions, les dates des lois contre la marche de la précarité est beaucoup moins connue, et les dates charnières sont beaucoup moins précises dans les des esprits. Si toutefois on s'intéresse un peu à l'histoire sociale, à l'histoire du travail, on s'intéresse à d'autres, ou on nous intéresse à d'autres sujets, et assez rarement à ceux qui nous concernent quotidiennement tous. Donc on est avec ces deux inspecteurs du travail à l'occasion de ce congrès à Paris, Yves et Gilbert, qui avec François Ruffin retracent cette histoire. Donc on a vu 72, 74 et maintenant on arrive en 79.
Deuxième date de la précarité, c'est 79. Qu'est-ce que c'est que 79 ?
La loi 79, c'est un peu comme la loi 72, c'est d'encadrer et de formaliser le recours au CDD. Ceci dit, là aussi pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré ou on n'a pas voulu mesurer. Je dis bien, on n'a pas voulu mesurer. Parce que en 79, les phénomènes d'externalisation, ce qu'on a appelé dans l'industrie l'externalisation, la sous-traitance généralisée, étaient déjà largement entamés.
Quand en 72, il y a cette loi sur intérim, ou en 79, la loi sur les CDD, il y a une bataille, les syndicats se positionnent contre cette loi sur les CDD, où à l'époque, comme c'est un phénomène encore marginal, on ne perçoit pas l'importance tout que ça fait. Peut avoir dans le code du travail.
Je vous donne l'exemple de la loi sur l'intérim. Par exemple, la CGT, qui était opposée à l'intérim, n'a pas voulu participer à la négociation de la convention collective. La CGT à l'époque, c'était une position de principe, mais la CGT elle-même ne pouvait pas imaginer les ravages et le développement que ça allait prendre.
Finalement, là, en légalisant l'intérim, on a espéré l'endiguer, mais c'est pas vraiment ce qui s'est produit.
Ah non, pas du tout.
Par rapport à ce que dit Gilbert, bon, nous sommes des praticiens un peu, mais des grands juristes comme Gérard Lyon-Caen ont dit d'emblée, attention, c'est qu'en légalisant, on légalise le fait. Alors, on légalise toujours dans l'alibi de dire on va encadrer pour limiter, mais on se rend très bien compte que, au contraire, ça fait presque un appel d'air. C'est-à-dire qu'à la limite, on va éliminer quelques margoulins, ça s'est passé en 82.
Alors, mais en même temps,
oui, 82, donc arrivée de la gauche au pouvoir, les premières ordonnances, donc dans les lois Auroux, on dit globalement donc 39 heures, 5 semaines de congés payés, et des ordonnances donc sur les CDD et l'intérim, avec toujours donc ce débat en disant on va encadrer par la loi, sans voir que, alors ça a permis effectivement de faire un peu le ménage de certaines entreprises qui étaient.
Finalement, ça voulait dire que tout en le réglementant, y compris la gauche, accepter qu'il y a un développement de l'intérim, accepter qu'il y a un développement des CDD, accepter cette flexibilité, quoi.
Bien sûr, complètement.
Si on reprend, 72, c'est la loi qui légalise l'intérim. 79, c'est la loi qui légalise et réglemente le recours au CDD. 82, c'est la loi, les lois Auroux, qui légalise la flexibilité, pour ainsi dire. Ensuite, pendant deux décennies, notamment sur ces bases juridiques-là, il va y avoir un développement.
Une explosion. Une explosion de l'intérim avec des secteurs entiers où bon, il y a des situations où il y a des chantiers, par exemple, où il y a un chef de chantier et que des intérimaires, c'est arrivé. Ou des secteurs d'activité, on prend l'automobile, où on peut avoir en même temps, moi j'ai vu le cas, licenciement économique, heures supplémentaires et 600 intérimaires pour 2000 personnes.
Et c'est des gens qui vont passer 2, 3, 4 années, parfois, à enchaîner des CDD, de l'intérim. Mais là, bon, la loi, elle n'est pas respectée dans ce cas-là.
La loi n'est pas respectée sur le principe, mais en général, ils vont s'arranger pour donner les apparences de respect de la loi. Alors, on va succéder des CDD pour remplacement de personnes absentes. Après, on va prendre un surcroît d'activité, parce que les surcroît d'activité, c'est par rapport à un motif, donc on va changer de motif. Donc on va dire, par exemple, surcroît d'activité lié à construction ligne 1, et puis après, on va refaire un autre surcroît d'activité lié à construction ligne 2, par exemple. Bon, la loi est globalement bafouée. Moi, j'ai commencé en 82, par là. Une entreprise de 10-20 salariés, il y avait une immense majorité de CDI, il y avait un ou deux CDD et trois contrats d'intérim. Là, on pouvait regarder. Lorsque les proportions sont complètement inversées, qu'on n'a plus que 2-3 personnes en CDI et tout le reste en intérim et sur le contrôle, ça devient quasiment mission impossible dans les faits.
Pendant toutes ces années-là, aujourd'hui, on en est à un point où 80%, 8 embauches sur 10 se font en CDD ou en intérim.
Sous forme précaire,
oui. Où depuis 10 ans, le nombre de personnes en CDD a augmenté de 60% et le nombre d'intérim de 160%.
Il faut dire aussi que pendant toutes ces années-là, avec la montée, la persistance, l'augmentation du chômage de masse, s'est développée l'idée que valait mieux de l'intérim que le chômage valait mieux des CDD que le chômage. C'est une soupe qu'on nous ressort encore aujourd'hui. Bon, c'était le même raisonnement. C'était de dire, si on donne de la souplesse aux entreprises via l'intérim ou les CDD, eh ben, elles n'hésiteront pas à prendre des marchés, elles n'hésiteront pas à demander... C'est, encore une fois, on voulait jouer le droit du travail contre le droit au travail ou l'inverse. Le résultat, c'est que globalement, c'est pas ça qui a réglé les problèmes d'emploi, et de loin. Mais par contre, ça a précarisé des pans entiers. Parce que sur le fond, le raisonnement est faux. Et que ce qu'on visait pas, c'était pas forcément le plein emploi, mais la compétitivité des entreprises pour aller vite. La précarisation n'a rien apporté il faut le regarder sur 30 ans, n'a rien apporté en termes d'effet de création d'emploi. Par contre, ça a eu un effet durablement et socialement très dévastateur. Et notamment, alors, c'est les jeunes.
Tout va bien, quoi. Pas de soucis, mais à part l'avenir, quoi. Mais bon. Je comprends pas. C'est justement, j'ai travaillé en intérim. J'ai fait 16 entreprises. Sur 16 entreprises, on ne m'a pas gardé, quoi. Bon, c'est sûr, c'est de l'intérim. Mais. Je comprends pas, quoi. Ouais, parce que c'est stressant, quoi. C'est même invivable. J'ai l'impression d'être comme un objet sans vie, quoi. Je ressens plus rien, je suis paumé, quoi.
La précarisation n'a créé aucun emploi. C'est quand même important de le constater, de le savoir sur une période aussi longue, en dépit de toutes les promesses des employeurs, du MEDEF ou des patrons ou des gouvernements successifs. La flexibilité, la précarisation n'ont créé aucun emploi. Il faut quelques chiffres peut-être. Il faut rappeler que le travail, la population active au travail atteint 7,30 millions de personnes, dont 46,5% de femmes. Et il faut souligner les financements massifs d'aide aux entreprises au nom de l'emploi. Et ces financements, pour 2004, pour donner une idée, s'élevaient à 24,5 milliards d'euros. Un record absolu depuis leur apparition en 1973. Ces indemnités ont été multipliées par près de 40, ce qui représente 19 700 euros par emploi créé ou sauvé, c'est-à-dire l'équivalent d'un an de SMIC. Donc la précarité ne crée pas d'emploi, la flexibilité ne crée pas d'emploi. Par contre, le soutien aux entreprises pour maintenir les emplois est massif. On continue donc l'histoire de cette précarité avec ces deux inspecteurs du travail.
En même temps qu'il y a ce développement de la précarité, du CDD, de l'intérim dans le secteur privé, dans le secteur public ou dans le secteur associatif, il va y avoir le recours à un certain nombre de TUC, les travaux du TUC.
Il y a un double mouvement. D'un côté, donc on voit bien cette explosion de la précarité, mais les règles, la référence reste le contrat à durée indéterminée à temps plein, donc un contrat protecteur, et qui, dans les faits, reste le contrat majoritaire. Dans le même temps, on met en place des politiques de l'emploi où là, on expérimente d'autres statuts. Donc, par exemple, par rapport au TUC, les gens étaient stagiaires, donc il n'y a pas de contrat de travail. Donc là, on sortait des gens d'une catégorie de contrat de travail. Et en même temps, on a développé des formes d'emploi à travers de ce qu'on appelle l'insertion par l'économique, association intermédiaire, entreprise d'intérim d'insertion, où sous réserve que les gens étaient en extrême difficulté et peu employables, c'est-à-dire qu'on inverse, c'est pas les patrons qui ne donnent pas de boulot, ce sont les gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent plus travailler. Moi, je pense que ça a servi de laboratoire pour, de fait, des nouvelles formes d'emploi qui sont peut-être maintenant... qui sont en germe avec le CNE-CPE, c'est-à-dire où là, on va s'attaquer au noyau dur, le CDI. Et on voit aujourd'hui, par exemple, moi je vais vous donner un exemple, où des communes, maintenant, ce que vous pensez être les employés municipaux, sont de fait des gens mis à disposition par des associations intermédiaires, de personnes en difficulté financées par les impôts, qui travaillent depuis des années avec des contrats renouvelés chaque semaine pour entretenir les espaces verts. Il y a 300 personnes qui sont dans cette situation en permanence depuis 5 ans. Alors que je suis sûr que la majorité des habitants de la commune pensent même que ce sont des employés municipaux. Et ça, ça s'est développé de manière exponentielle.
Donc c'est-à-dire qu'on a parlé du CDD et de l'intérim, mais à côté de ça, il y a eu un certain nombre d'autres formes d'emploi, comme le contre-emploi solidarité, le contre-emploi consolidé, les travaux d'utilité collective, un certain nombre de stages, contrats adultes relais, je ne sais pas, qui ont contribué eux aussi à fragiliser la norme qui est le contrat à durée déterminée, qui est le CDI.
Là, c'est un point de vue personnel. Je pense qu'ils ont servi de ballon d'essai et d'expérimentation sur ce qui était faisable, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, pour aller vers ces nouvelles propositions de dire il faut que là, on pète le CDI.
Mais alors, la difficulté, c'est que tout ça s'est développé, mon père et maman, non, ce discours qui accompagnait ça, c'était un discours toujours un peu compassionnel. Oui, c'était le discours de l'aide aux personnes en difficulté.
Bien sûr, complètement.
On a dit 72, légalisation de l'intérim, 79, légalisation et encadrement du CTD, 82, la même chose, plus acceptation de la flexibilité. Ensuite, pendant deux décennies, ça se développe, notamment sur ces bases juridiques-là, se développe l'intérim et les contrats précaires. Et là, on assiste comme à une accélération de l'histoire depuis quelques années, parce que malgré tout, il y a une résistance du contrat à durée déterminée, qui représente aujourd'hui 90% des salariés. Depuis l'an dernier, c'est comme si on avait décidé de s'en prendre directement, frontalement maintenant, au contrat à durée indéterminée.
À force d'avoir tout expérimenté en matière de flexibilité, on se dit que on pourra aller difficilement aller plus loin. Donc si on veut une étape supplémentaire au nom de la mondialisation et d'une économie libre et sans entrave, maintenant, il faut passer aux travaux pratiques à l'étape supérieure. Je pense que c'est à ça auquel on est confronté aujourd'hui, dans le cadre d'une construction européenne qui, compromis Lisbonne et tout, a inscrit ce calendrier à l'ordre du jour.
Parce que pour vous, toutes ces décisions-là, ce sont des décisions purement françaises ou bien elles s'inscrivent dans un contexte européen, dans un contexte international ?
Oui, non, il y a un contexte européen qui est manifestement libéral. C'est le discours rémanent de l'OCDE, la rigidité des marchés du travail. L'OCDE tape sur les doigts d'un certain nombre de pays sur leur dette extérieure et sur les rigidités du marché du travail.
On a un gouvernement qui a compris qu'on passe plein de petites lois. C'est-à-dire qu'actuellement, pour les inspecteurs du travail, c'est vrai pour tous les juristes, suivre l'évolution du droit du travail et savoir exactement quel est le droit applicable à l'instant T devient quasiment mission impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte. Au lieu d'avoir une grande loi qui va tout reprendre, qui balaye tout, chaque loi aura son petit morceau. Tac, un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout.
C'est-à-dire qu'à côté, on parlait des grandes dates de la précarité, c'est quasiment devenu impossible d'avoir des grandes dates de la précarité, tant il y a de petites dates qui se succèdent. Oui. Tous les trois mois, il y a des petits bouts de réformes qui se mettent en place, c'est ça?
Depuis 2002, c'est évident. À chaque loi, tous les mois, en six mois, si vous balayez en six mois l'évolution du droit social, c'est faramineux. Donc là, on le fait par coin. C'est-à-dire qu'on commence par les entreprises de moins de 20 salariés, CNE, pour tous les salariés. Mais au niveau du droit, on voit bien que ce sont des étapes pour aller demain sur une remise en cause généralisée du CDI pour tout le monde. On revient à la situation antérieure à 73. C'est-à-dire que depuis la loi 73, on n'a pas le droit de licencier quelqu'un sans cause réelle et sérieuse. Là, on en arrive à une solution où il n'y a plus à justifier du motif du licenciement pendant 2 ans.
Un grand bond en arrière, le CNE, c'est pas seulement la génération précaire, c'est tout un monde précaire. On va finir avec Pierre Concialdi, qui est chercheur à l'IRES et qui brosse un tableau plus précis, peut-être encore, du phénomène.
Alors on se trouve avec Pierre Concialdi, qui est économiste, chercheur à l'IRES, à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Vous avez des ordres de grandeur sur la précarité dans l'emploi?
L'intérim, d'abord, il y avait moins de 100 000 emplois d'intérimaires au début des années 80. On est à plus de 500 000, 550 000 aujourd'hui, donc une multiplication par 5. Pour les CDD, c'est pareil, multiplication par 4. On a aujourd'hui 1 200 000 emplois en CDD, il y en avait moins de 300 000 en 83. Et l'ensemble de ce qu'on appelle les stages et les contrats aidés, là aussi, il y a une multiplication de plus de 3 en 20 ans, puisqu'on est aujourd'hui à près de 800 000 emplois de ce type contre 200 000 environ au début des années 80.
D'accord, donc là, il y a une multiplication par 4 pour les CDD, multiplication par 5 pour l'intérim.
Oui, alors le patronat parle, lui, de flexibilité, mais pour effectivement, le revers de la médaille pour les salariés, c'est la précarité. C'est son maître mot depuis le début des années 80, hein, effectivement. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun lien entre la flexibilité de l'emploi et le volume de l'emploi.
Vous dites que c'est pas parce qu'il y a plus de flexibilité qu'il y a plus d'emplois qui sont créés?
Absolument pas. Il n'y a aucune étude empirique, hein, qui montre un lien entre flexibilité de l'emploi et volume de l'emploi.
Qui gagne cette précarité alors?
Clairement, ce ne sont pas les salariés qui vont y gagner. Et donc les grands gagnants, depuis 20 ans, c'est clair que ce sont les entreprises, au moins si on regarde leurs comptes, hein, puisque les profits ont explosé depuis 20 ans. On a un indicateur simple en économie, c'est le partage des revenus entre les revenus du travail et les revenus du capital, ou les profits si on veut. Et bien, la part de ces revenus du capital, donc ces profits, a augmenté de 10 points. Depuis le début des années 80.
Il y a 10 points du PIB qui vont plus dans les poches des salariés, mais qui vont dans les poches des actionnaires. C'est ça un peu ou...
Ça va effectivement aux actionnaires qui détiennent ces actions. Ce qui équivaut aujourd'hui à un transfert annuel de plus de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 10 fois le déficit annuel de la sécurité sociale.
Membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tous ceux qui payent l'ISF et la liberté d'entreprendre, et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse, pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF, car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible, et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible d'Adam Smith. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois. Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de foutre en l'air tout ce qui rapporte pas baiser et qui coûte cher aux fonctionnaires, et je me battrai contre la crise pour lancer l'activité. Je me prendrai qu'on la délocalise partout où on peut l'exploiter. Quand je serai membre du MEDEF, je dirai que le libre-échange peut tout, pendant que j'engrangerai les bénéfices en embauchant à moindre coût. Je serai pour un état régalien armé des lois de la police qui se tiennent main dans la main d'Adam Smith. Ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les cons et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith. Un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois. Je gagne, je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois.
Volo, vous dites qu'est-ce que c'est que ces gens qui chantent une chanson sur Adam Smith? C'est Volo, on vient de me le dire dans le casque. Je sais que vous allez le demander et vous pourrez trouver toutes les précisions et les informations sur le site de franceinter.com à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Merci à tous, c'était un reportage de François Ruffin, soi-même en personne, la précarité a une histoire. Merci à tous, à la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Eric Mainviel. C'est Yann Chouquet et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Fimbert, quant à lui, va rester. Il est déjà immobile à côté du répondeur. Ses grandes oreilles ouvertes attendent vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37. 3737. Vous avez aussi le mail de l'émission daniel.mermet@radiofrance.com. Et vous pouvez aussi réécouter cette émission sur labas.org, la-bas.org. Et demain, ce sera la 1000e émission qui sera archivée par notre ami AMG, auditeur qui a ouvert ce site qui est bien utile. Vous êtes 10 000 à peu près chaque jour à vous promener sur ce site labas.org. Et 6 à 7 000, vous êtes à podcaster notre émission modeste et géniale.